Est-ce que ces rébellions datent depuis l'indépendance du Mali?
La première rébellion Touareg, elle est datée, hein, c'est 1963, 3 années après l'indépendance. L'indépendance du Mali, c'est le 22 septembre 1960. La première difficulté de ce côté, c'était en 1963. Et je pense que lorsqu'on parle avec les gens qui travaillent sur cette question-là, on s'aperçoit d'ailleurs que la gestion de cette première rébellion a aussi eu des conséquences très lointaines, mais certaines sur ce qui s'est passé après. C'est-à-dire très clairement, certains analystes considèrent que la façon dont cette rébellion a été gérée a créé des frustrations, des rancœurs, des rancunes même, qui ont été, vous savez, les mémoires douloureuses, ça se transmet. Les enfants des acteurs qui n'ont peut-être qui n'ont pas connu les événements, mais bon, la mémoire fait le reste. Effectivement, c'est une dimension mémorielle extrêmement importante. Il faut voir le contexte. Nous sommes des historiens et le pouvoir de l'époque a considéré que cette rébellion n'était pas quelque chose d'autonome et que c'était aussi une question de politique extérieure. Je rappelle que le Mali est voisin d'un grand pays qui est l'Algérie. La lutte pour l'indépendance en Algérie, c'est bien connu. Le Mali a servi non seulement des zones de repli pour les combattants algériens, mais la position du Mali était très claire dans ce conflit-là. On peut parfaitement comprendre que les dirigeants de la Première République, vu quelques influences extérieures sur cette rébellion de 1963, je pense que ça a beaucoup compté sur la manière dont elle a été gérée. C'est-à-dire elle a été gérée de manière assez sécuritaire et ça a eu des effets à long terme.
Pourquoi depuis l'indépendance, les rebelles Touareg s'opposent au pouvoir?
Oui, alors c'est compliqué. Je pense à un président français qui disait la France n'est pas responsable des problèmes des Africains. C'est un peu vite dit. Pour aller vite, il faut voir que ce pays n'a pas été géré par l'administration française de la même façon. Les zones nomades n'ont pas été gérées exactement de la même manière que les zones sédentaires. C'est ce que nous appelons, dans notre jargon, une gestion différenciée. Le résultat, c'est que ça a créé une mentalité, voilà, qui n'est pas exactement la même au nord qu'au sud. Je n'aime pas bien cette division nord-sud, bon, mais ça permet de comprendre. Quand je parle de sud, je pense surtout aux sédentaires. Mais même dans le nord, là-bas, les sédentaires n'ont pas été gérés par l'administration française de la même manière que je m'explique. L'administration française a eu une espèce d'indirect rule, c'est-à-dire se sont appuyés souvent sur les chefferies locales, ont laissé le système fonctionner à l'interne, sans remplacer les chefs qu'ils ont trouvés là. Et je crois que en zone nomade, ça a été à peu près ça. Alors qu'en zone sédentaire, voilà, les Français ont procédé à des nominations de chefs de canton, et voilà, et ces chefs de canton n'étaient que des auxiliaires. Donc, vous voyez, ça crée déjà des déséquilibres au niveau du même pays. Donc, lorsqu'on a voulu soumettre tout le monde aux mêmes lois, vous comprenez que ça a provoqué un certain nombre de difficultés. Parce que, je le répète, pendant la période coloniale, ces zones n'étaient pas gérées de la même manière. La scolarisation a été très faible en pays Touareg parce que, voilà, il y avait des réticences. Et en zone sédentaire, les réticences existaient. Mais la colonisation a souvent utilisé les méthodes fortes pour contraindre les sédentaires à aller à l'école. Donc, au moment de l'indépendance, il y avait aussi ce clivage. Et tout ça crée des sentiments de frustration et le sentiment qu'on n'est pas suffisamment intégré au cadre national. Du moins, ça a été notre première compréhension des rébellions. Mais aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées. On va au-delà de la question d'intégration. Aujourd'hui, on est dans des questions aussi qui touchent à la mondialisation. Deuxième chose qui me paraît importante, et je ne suis pas de ceux qui veulent toujours renvoyer tout à la colonisation, c'est pas vrai. Nous avons eu nos propres responsabilités dans ce qui se passe. Et il y a des questions qui méritaient peut-être d'être traitées de façon plus politique, mais qui l'ont été plus, je vous dis, de façon sécuritaire. Parce qu'il y avait le soupçon, c'est mon analyse en tout cas, il y avait le soupçon chez les autorités maliennes de l'époque que ces rébellions étaient quelque chose de manipulé de l'extérieur. Parce qu'il faut bien comprendre que ce sont souvent les enfants de ceux qui ont été réprimés, qui sont revenus souvent de Libye ou de pays voisins où leurs parents s'étaient réfugiés et qui avaient la mémoire transmise de leurs parents. Les enfants les ont intégrés et c'est pour ça que dans la crise malienne, il y a cette question mémorielle qu'il faut aussi prendre en considération, enfin, qui a été évoquée dans l'accord pour la paix qui a été signé en Alger, où on a cette mémoire douloureuse qui s'est transmise de génération en génération.
Et comment on peut expliquer que ces nouvelles générations, qui n'ont pas connu ces événements se sentent aussi, blessées?
Oui, C'est pourquoi le phénomène de mémoire, il est bien étudié. Vous voyez la Shoah, pour un exemple, c'est un autre contexte, c'est un autre sujet. Mais vous savez, les enfants de ceux qui ont connu les camps de concentration, les enfants vivent avec cette mémoire-là. Et c'est normal. La mémoire se transmet. Et c'est extrêmement important. C'est pourquoi dans les conflits, c'est des aspects qu'il faut absolument gérer, parce que la réconciliation, c'est aussi d'apaiser ces mémoires-là. Ce n'est pas simplement ce qui explique les rébellions ultérieures, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont d'ordre économique, qui sont d'ordre, comme je vous disais, de la mondialisation, parce que les choses se sont compliquées. Parce qu'on n'est pas sur le monde, et on est aussi, il y a des questions géostratégiques. Cette région, sa position sur la carte du monde, est une position qui explique aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de ces territoires-là. Donc tout ça, ça donne un cocktail assez explosif.
Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les nordistes voudraient leur propre État ?
Les nordistes, ça ne veut pas dire grand-chose ici. Pour ceux qui veulent simplifier les choses à l'excès, ils raisonnent même souvent en termes de race, ce qui est aberrant, parce qu'au Mali, on est très métissé. Je ne connais très peu de pays en Afrique qui sont aussi métissés que le Mali. Mais en gros, au nord, vous avez les sédentaires, les négro-africains, si on veut parler les Kodermes, vous avez les Touaregs, vous avez les Maures, vous avez les Peuls, vous avez les Songhaï, ils sont nombreux, vous avez les Bela, vous avez beaucoup de communautés. Donc quand on dit nordique, non. Et même à l'intérieur d'un même groupe, et ça je crois que c'est important aussi pour comprendre ce qui se passe, même à l'intérieur du groupe Touareg, c'est pas tous les Touaregs ne sont pas comme ça dans l'unanimisme. Il y a des contradictions au niveau de la société Touareg, et je pense d'ailleurs que c'est extrêmement important, cette dimension-là. Les Touaregs ne sont pas tous comme ça unis contre l'État malien, il y a entre eux aussi des contradictions qui tiennent au statut avec TS, et aux positions sociales. La société Touareg est une société très stratifiée, c'est-à-dire avec des hiérarchies, et donc ça crée des tensions à l'intérieur même de la société. Parler d'un État nordiste, non, c'est pas la question ne se pose pas dans ces termes. L'Azawad, dont il a été question, n'est pas un État nordique. C'est un territoire, pour nous, purement géographique, auquel on a voulu donner une signification politique.
Est-ce qu'on peut dire que les accords d'Alger, signés il y a un an, sont mis en application?
Je pense qu'il y a quand même beaucoup de difficultés dans l'application de l'accord. Il y a des choses qui ont été faites, c'est incontestable, mais... Et ça, on le savait dès le départ, que cet accord ne serait pas un long fleuve tranquille, et qu'il faut beaucoup d'intelligence pour arriver à mettre cet accord-là en œuvre. C'est pourquoi on a parlé d'accord pour la paix. Je pense que les signataires de l'accord ont expliqué clairement qu'il s'agissait d'un processus. On n'a pas dit accord de paix, on a dit l'accord pour la paix. Et la nuance sémantique est importante. C'était un processus, et manifestement, le processus connaît quelques ratés. Voilà, parce que tous les jours, nous avons des nouvelles de confrontation entre groupes, et surtout, plus dangereux, il y a des dissidences. Les groupes, il y a une démultiplication des groupes sur le terrain, et tout ça, ça tient aussi à des enjeux qui sont souvent des enjeux économiques. Des enjeux économiques qui sont connus.
Très bien, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.